Salut tout le monde. C'est cool de vous voir tous ici aujourd'hui. Vous savez, certains des mots les plus petits et les plus simples de la Bible ont parfois un sens super puissant. Je l'ai déjà dit par le passé. Prenez, par exemple, la conjonction si. Un mot lourd de sens. C'est une condition. Et nous savons que notre vie chrétienne et les bénédictions ou les malédictions qui peuvent accompagner la vie que nous avons décidé de mener dépendent des choses que Dieu met devant nous. Choisissez la vie, choisissez la mort. Si vous faites ceci, la vie. Si vous faites cela, la mort. Le mot mais. Un mot puissant. Si tu le lis dans la Bible, il a des implications profondes quand il est utilisé et pourquoi il est utilisé. De la même façon, de petites phrases sans prétention dans les Écritures peuvent avoir le poids de toute une vie. Ce ne sont pas des phrases compliquées, mais quand on les comprend vraiment, elles deviennent discrètement la boussole qui guide nos vies. Elles peuvent influencer ces petites phrases. Comment on pense, ce qu'on pense, comment on parle, ce qu'on dit, comment on fait les choses, ce qu'on fait. Aujourd'hui, on va se pencher sur une petite phrase de trois mots qui est la norme biblique ultime selon laquelle nous, le peuple de Dieu, devrions vivre. Ce que nous pensons, disons et faisons devrait être évalué à l'aune de cette petite phrase sans prétention. Contrairement aux mots si et mais, cette phrase n'apparaît que deux fois dans la Bible. Mais encore une fois, ces trois mots nous rappellent que ce que nous sommes doit correspondre à ce que Dieu nous appelle à être. Prenons l'exemple d'un artisan qualifié. Il s'agit d'un sculpteur, d'un menuisier ou d'un tailleur. Ils ne prennent que rarement, voire jamais, une seule mesure. Qu'ils travaillent le bois, la pierre, les tissus fins ou les étoffes, ils ont des normes professionnelles auxquelles ils se conforment en permanence, car ils savent qu'une seule coupe mal faite, un seul coup de marteau mal placé, une seule coupe mal faite à la scie ou au ciseau peut ruiner ou détruire le projet le plus important. Nos normes, mes frères, ne se trouvent pas dans le monde. Elles sont tellement exclusives qu'elles ne sont pas soumises aux opinions changeantes du monde. Vous ne trouverez pas cette phrase dans les devises, dans les derniers groupes d'entraide, dans les livres, ni dans les programmes de licence, de master ou de doctorat des universités les plus prestigieuses du monde. Vous ne la trouverez nulle part. Elle n'a jamais fait et ne fera jamais l'objet d'une conférence TED. Ce n'est pas l'objectif des conférenciers motivateurs qui essaient de changer le comportement des gens. Vivre selon cette phrase dépasse tous les idéaux personnels que quelqu'un, même vous et moi, peut considérer comme important. Car ce que nous allons lire, encore une fois, bien que simple, représente les idéaux de Dieu, sa norme. Et j'ai découvert que chaque fois que je suis tenté de trouver des excuses, de faire des compromis sur ce mode de vie, de céder, d'arrêter, d'abandonner, ou que je suis tenté de faire des choses qui vont à l'encontre des lois ou des commandements de Dieu, nous sommes tous confrontés à ces moments, mes frères. Il n'y a pas une seule personne dans cette salle qui ne soit confrontée à ce moment. Quand je me souviens et que je pense à cette simple phrase, cela m'arrête. Cela me met au défi. Elle me rend humble. Elle me donne la force de faire ce qui est juste. Et peu importe le genre de pressions exercées. Cette norme, lorsqu'elle est respectée, résiste aux plus grandes tentations, aux plus grands défis. Et j'espère qu'elle deviendra les trois mots qui guideront votre vie. Elle vous arrête et vous interpelle dans ces moments-là. Elle vous met au défi d'atteindre cet idéal, cette norme que Dieu nous a donnée. J'espère que ces mots vous aideront et vous renforceront lorsque vous serez tenté d'abandonner, de céder, de faire des compromis ou de succomber aux pressions de votre famille, de vos amis, de vos proches, de vos collègues, de vos camarades de classe, de vous-même, jeunes gens, de vos amis en dehors de l'Église, voire de certains membres de l'Église. Quelle est cette phrase? Éphésiens chapitre 5. Rappelez-vous, elle n'apparaît que deux fois. Éphésiens chapitre 5, verset 1. Soyez donc les imitateurs de Dieu, cela pourrait être cela? Les imitateurs de Dieu, c'est une phrase de trois mots. Comme des enfants bien-aimés. Paul continue en disant, et marcher dans l'amour, il y a trois mots de plus. Ça pourrait être cela? Comme Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous, en offrande et en sacrifice à Dieu, comme un parfum de bonne odeur. Verset 3. Mais que l'impudicité, sous toutes ses formes, et la cupidité, ne soient pas même mentionnées parmi vous, comme il convient à des saints. Voilà, mes frères. Suivez Dieu, comme des enfants bien-aimés, marchez dans l'amour. Ce n'est pas la norme dont je parle. La norme dont je parle englobe en fait les trois que je viens de mentionner. Frères et sœurs, l'expression est comme il convient à des saints. En d'autres termes, c'est ce qui sied à des saints. Pensez à la conduite d'une reine. Elle agit comme il sied à une reine ou à un roi. À n'importe quel membre de la royauté, d'ailleurs. Un prince ou une princesse. Ils agissent comme ils sont à leur fonction ou à leur titre. Un dirigeant. Un président. Tout homme ou femme, jeune ou vieux, qui vit selon ces trois mots, toute personne qui laisse cette phrase guider ses pensées, ses paroles et ses actions, détient littéralement, mes frères, les clés du royaume. C'est pourquoi on mesure nos pensées, nos paroles et nos actions à l'aune de cette norme. Comme il convient aux saints. On peut se demander, dans n'importe quelle situation, surtout dans les moments que j'ai décrits plus tôt, est-ce que ce que je pense est digne de saint? Ou digne d'un saint? Est-ce que ce que je m'apprête à dire, ou ce que je viens de dire, est digne de saint? Ce que je viens de faire, ça peut nous arrêter net dans notre évaluation de quelque chose qu'on a fait ou qu'on s'apprête à faire si on se demande simplement « Était-ce ou est-ce digne de saint ?» C'est aussi simple que cela. Je vous l'ai dit, ce n'est pas difficile. Toute personne baptisée, même vous, les jeunes, comme on va le voir au cours de ce message, peut se poser cette question. Et vous vous dites peut-être, vous les jeunes, mais je ne suis pas un saint. Restez à l'écoute. Restez à l'écoute. Vous savez, Salomon a dit, « Réjouis-toi, jeune homme, ou jeune gens. Dans ta jeunesse, que ton cœur te réjouisse pendant les jours de ta jeunesse. Soyez heureux. Faites des choses qui vous plaisent. Marche selon les voies de ton cœur et selon ce que voient tes yeux, mais sache ceci, pour toutes ces choses, Dieu te jugera. Pourquoi? Pourquoi vous jugerait-il, vous qui êtes assis ici à écouter, si vous n'êtes pas des saints? Comme je l'ai dit, restez à l'écoute. Mes frères, nous devons mesurer chaque domaine de notre vie à l'aune de cette norme. Examinons donc la signification de cette phrase en regardant chaque mot. Et lorsque nous examinerons chaque mot, nous comprendrons mieux où nous voulons en venir dans ce message. Le mot « comme ». Je vais l'écrire dans vos notes. C'est « kato ». « Kato ». Et cela veut dire « tout comme » ou « selon ». C'est super simple, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Ensuite, le mot « devient ». C'est un mot intéressant. Prépo, P-R-O-P-O. Prépo. Et cela veut dire s'élever, être visible, être évident. Le contraire de discret. Quelque chose qui s'élève, on peut le voir de loin. Regarde la Tour Eiffel, l'Empire State Building ou le Mont Everest. Ce sont des trucs qui se remarquent, des bâtiments, des merveilles naturelles. Ça veut dire s'élever, être visible, et par conséquent être approprié, convenable, adapté ou juste. Et puis le mot saint. Ce mot, c'est agio. Agio, H-A-G-I-O-S. On le prononce agio. Et c'est le numéro 40 dans le dictionnaire Strong. Pour ceux d'entre vous qui voudraient approfondir le sujet après. Et cela veut dire sacré. Physiquement pur, moralement irréprochable et consacré par une cérémonie. Donc, si on rassemble tout cela avec les définitions que je viens de vous donner, cela pourrait se lire comme cela. Selon le fait d'être visiblement pur physiquement, irréprochable moralement et consacré par une cérémonie. Je vais le répéter. Selon le fait d'être visiblement pur physiquement, irréprochable moralement et consacré cérémoniellement. Ce mot agio est traduit par saint ou sacré, ou saint, 229 fois dans le Nouveau Testament. Quand je vois un mot apparaître autant de fois, plus souvent que le royaume de Dieu, le royaume des cieux, les frères, c'est là qu'on doit y prêter attention. Y aurait-il un thème récurrent, ou un thème auquel Dieu veut qu'on prête attention? Et agio vient du mot racinago, H-A-G-O-S. Tu sais ce que cela veut dire? Ça veut dire une chose horrible. Une chose horrible. T'as bien entendu. Horrible. Comme devenir horrible, c'est comme cela qu'on dirait. J'espère que t'as bien entendu. On pense à horrible comme à quelque chose de très mauvais ou de désagréable. Mais à l'origine, horrible signifiait plein de crainte révérentielle ou inspirant la crainte révérentielle. Il vient évidemment de la combinaison de ful, qui signifie plein de, et de ho, qui signifie crainte révérentielle. Un sentiment de respect révérentiel mêlé de crainte ou d'émerveillement. Ainsi, en anglais ancien, quelque chose d'horrible signifiait que c'était impressionnant, souvent dans un sens sacré ou majestueux, comme un puissant orage. Avez-vous déjà vu un orage ou un coup de tonnerre? C'est impressionnant. Sa taille gigantesque peut inspirer la peur. Est-ce qu'il va venir vers moi? S'il vient vers moi, que va-t-il se passer? Comme une grande cathédrale. Avez-vous déjà visité certaines des grandes cathédrales du monde? J'en ai visité quelques-unes. Et on ne peut que rester bouche bée et se dire qu'un homme avec deux mains et deux yeux, certains aveugles, a peint cette structure merveilleuse, incroyable, époustouflante. Mais cela peut aussi signifier la présence de Dieu. Quelque chose qui remplissait quelqu'un d'un sentiment de respect révérentiel mêlé de crainte envers Dieu. Ce n'est qu'au fil des ans que le mot « awful » horrible a pris le sens qu'on lui connaît aujourd'hui. Quelque chose d'horrible, d'extrêmement mauvais ou désagréable. Je voudrais donc que vous réfléchissiez à quelque chose. Avez-vous déjà pensé que Dieu veut que les spectateurs soient remplis de respect et d'émerveillement envers lui lorsqu'ils nous voient? Dieu veut nos conjoints, convertis ou non, mon conjoint, ma femme, votre mari, votre femme. Il veut vos enfants, en tant que père et mère. Les enfants, ou les jeunes, il veut vos parents, votre père et votre mère. Il veut vos camarades de classe, vos amis, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'église. Il veut que vos collègues, vos patrons, soient émerveillés par la façon dont il appelle et peut transformer les individus pour qu'ils vivent selon ce qui est physiquement pur et moralement irréprochable. Et on va approfondir la raison pour laquelle. Je ne veux pas que vous me croyiez sur parole, ce que je viens de dire. Il y a un exemple clair de cela dans la Bible. Ouvrons le deuxième livre des Rois, chapitre 4. Je n'ai pas besoin de lire beaucoup sur ce récit, mais je l'ai trouvé très intéressant. Certains de ces récits ordinaires peuvent avoir une signification extraordinaire si vous méditez dessus, Priez à ce sujet et laissez l'Esprit de Dieu vous parler à ce sujet. Deuxième livre des Rois, chapitre 4, verset 8. Et il arriva, c'est-à-dire que cela s'est passé. Un jour qu'Élisée passait à Shunem, où il y avait une femme importante. C'est clairement une femme influente. Je trouve super que le mot « importante » ait été utilisé pour décrire cette femme. Elle le contraignit à manger du pain. Et il en fut ainsi chaque fois qu'il passait par là. Donc, chaque fois qu'il venait en ville, cette grande femme d'influence pouvait probablement inviter qui elle voulait, passer du temps avec qui elle voulait aussi longtemps qu'elle le voulait. Il est dit, chaque fois qu'il passait par là, il s'arrêtait pour manger du pain. Verset 9, et se référant à un moment donné, je ne sais pas si c'était au début ou au fil du temps, alors qu'il venait passer du temps avec cette grande femme. Elle dit à son mari, « Voici, je perçois que cet homme est un saint homme de Dieu. » Or, le mot « percevoir » signifie savoir ou s'assurer correctement en voyant ou en observant. Cette femme a observé Élisée et a su qu'il était un saint homme de Dieu. Mais monsieur Hook, on parle ici des saints, du fait de devenir saint, pas des hommes saints. Il est question ici d'un homme saint. Bon, attendez un instant, et passons au psaume 106. Psaume 106. Ce psaume raconte ce qui est arrivé à l'ancien Israël dans le désert avec Moïse et Aaron. Passons directement au verset 16. Ils étaient envieux, ils étaient jaloux, dit-il. Moïse aussi dans le camp, et Aaron, le saint de l'Éternel. La terre s'ouvrit et engloutit Dathan, et couvrit la compagnie d'Abiram. Et, vous savez, nous reviendrons sur cette histoire dans un instant, mais il est dit que le saint de l'Éternel décrit Aaron. Le mot saint est le même que celui utilisé par la femme de Shunem pour désigner un homme saint. Il n'y a aucune différence. Ça va nous aider à établir un point important. Dans l'Ancien Testament, le mot anglais « saint » ou « saint » n'apparaît que 38 fois. Mais contrairement au Nouveau Testament, qui en compte 40, le mot « saint » ou « saint » est utilisé pour 4 mots hébreux différents. Donc, le mot « saint » est « saint » dans l'Ancien Testament, les 38 fois, traduit 4 mots différents. Par exemple, celui qu'on regarde est 69-18, « kadosh », traduit par « saint » 12 fois. Et c'est celui qu'on va regarder dans le Nouveau Testament qu'on vient de lire dans Éphésiens 5. Mais il y a aussi 26-23, « hassid », traduit par « saint » 19 fois. Et puis, il y a « kadish », 69-22, qui est un mot araméen, que tu trouveras dans Daniel. Il est traduit 6 fois. Et puis, il y a « kodesh », pas « kadosh », mais « kodesh », 69-44, qui n'est traduit qu'une seule fois, 38 fois. Mais tu sais combien de fois ces mots, ces 4 mots, apparaissent dans l'Ancien Testament? 620 fois. Maintenant, on va se concentrer sur 69-18, kadosh, qui est principalement lié, comme je l'ai dit, au saint dans le Nouveau Testament. Mais voici leur définition. Hassid est traduit par saint 19 fois, comme je l'ai dit. Les 12 autres fois, il est traduit par saint, pieux, miséricordieux et bon. Kadish est traduit par saint 6 fois, mais il est traduit par saint 7 fois. Kodesh n'est traduit par saint qu'une seule fois, mais on le trouve 355 fois sous les formes saint, sainteté, sanctifié ou consacré. Et puis celui que nous examinions, Kadosh, 117 fois. Rappelez-vous, il est traduit par saint ou saint 12 fois, mais on le trouve 105 fois sous la forme saint ou saint, signifiant mis à part. Sur les 620 occurrences de ces mots dans l'Ancien Testament, 479 fois, Il est traduit par saint, sainteté, sanctifié ou consacré, et même saint. Seulement 38 fois par saint ou saint. Pourquoi est-ce que je vous parle de tout cela? Parce que je veux faire passer un message. Saint ou saint est un titre. Les autres mots ne le sont pas. Ce sont des adjectifs. Ils décrivent. Mes frères, la simple expression « devenir saint », si vous devez vous souvenir d'une chose, souvenez-vous de cela, n'a pas grand-chose à voir avec le titre que nous portons, mais tout à voir avec la façon dont nous nous comportons. Je le répète. Devenez saint n'a pas grand-chose à voir avec le titre qu'on porte, et on porte ce titre, et c'est un titre important. Mais cela a tout à voir avec la façon dont on se comporte. Pensez-y, chaque fois que les traducteurs ont traduit « saint » ou « saint », ils ont traduit l'un de ces descriptifs, l'un de ces adjectifs, 12 fois. C'est un ratio de 12 pour 1. Revenons au chapitre 4 du deuxième livre des rois. Revenons au récit de la femme de Shunem au verset 9. On va reprendre là où on s'était arrêté, parce que je vais utiliser un mot différent. On a établi que c'est le même mot que dans le psaume 106, donc au verset 9, reprenons là où on avait commencé, juste après le verset 8. Elle dit à son mari, « Je sais maintenant, à ce que je vois, que c'est un saint de Dieu qui passe continuellement près de nous. Faisons une petite chambre, je t'en prie, supplie-t-elle son mari, sur le mur, et installons-la pour lui. Mettons-y un lit. Mettons-y une table. Mettons-y un tabouret. Mettons-y un chandelier. Et quand il viendra chez nous, il dormira ici. » Mes frères, dans le cas d'Élisée, il se comportait d'une manière qui le distinguait de tous les autres aux yeux de cette grande femme. Réfléchissez-y. Élisée affichait des caractéristiques qui le distinguaient de tous les autres. Et encore une fois, je suis content qu'il l'ait décrite comme une grande femme. Parce qu'on ne devient pas grand en étant aveugle à tout ce qui nous entoure, ou en ne connaissant pas les gens, en étant incapable de percevoir ce qu'il y a chez les gens. Cette femme de Shunem était décrite comme une grande femme, pas juste une femme. Et elle savait, d'après ce qu'elle avait observé chez Élisée, qu'il était un saint de Dieu. Je trouve cela intéressant aussi. Elle voulait qu'il reste près d'elle, et son mari l'a évidemment soutenue en acceptant de lui offrir un endroit où loger dans leur maison. Imaginez cela. Vous arrivez dans une ville, et quelqu'un est tellement impressionné par vous, par votre personnalité, par qui vous êtes, que vous vous démarquez. Non seulement on vous offre une chambre, comme dans une chambre d'hôte, mais on vous construit une aile dans la maison. Réfléchissez-y. Elle devait avoir de l'argent. Chérie, ce type est intéressant. Il est impressionnant. J'aimerais qu'il reste avec nous. Pourquoi aurait-elle demandé qu'il reste avec eux? Réfléchissez à ce que j'ai dit, à mesure que nous devenons des saints. C'est plus qu'un simple titre. Il s'agit de la façon dont nous nous comportons. J'ai cherché cette expression. Se comporter. Tu sais ce que cela veut dire? Ça veut dire se présenter aux autres à travers sa posture, ses manières et son attitude. Même notre posture, mes frères. La posture d'Élisée, sa façon de s'asseoir, de se tenir debout, de marcher, de s'habiller, de parler, d'agir, devrait laisser une impression sur ceux qui l'observent, ceux qui l'écoutent, ceux qui le regardent. Pourquoi? Pourquoi est-ce si important? Vous savez, vous utilisez l'exemple, on a tous entendu dire qu'elle se comporte avec grâce et dignité. On n'entend pas cela très souvent de nos jours, mais il se comporte avec respect. Il se comporte comme un leader avec confiance. Il a une attitude de battant. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 3. Maintenant, on a Élisée comme exemple, mes frères. Et l'exemple qu'il a donné à quelqu'un qui connaissait probablement très peu les Écritures, très peu la Bible, mais qui le lisait. On a tous entendu cette expression, pas vrai? Je peux te lire comme un livre ouvert, ou il me lit comme un livre ouvert, ou elle me lit comme un livre ouvert. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 3. Parce que, mes frères, jeunes gens, futurs membres, les gens vous lisent tous les jours dans tous les domaines de votre vie. Verset 1, deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 3, verset 1. Commençons-nous à nous recommander nous-mêmes? Commence l'apôtre Paul. Où avons-nous besoin, comme certains autres, d'épîtres de recommandation pour vous, ou de lettres de recommandation de votre part? Voici ce qu'il dit. Vous êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue par tous les hommes. Et puis il dit, c'est pourquoi, autant que vous êtes, vous pouvez rayer cela. Ce n'est pas là dans le grec. Continuez. Il dit, connu et lu par tous les hommes, manifestement déclaré être la lettre du Christ, ministérielle par nous. Frères et sœurs, nous sommes les lettres du Christ. Écrites, non pas avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, on y reviendra un peu plus tard. Non pas sur des tables de pierre, mais sur les tables de chair du cœur. J'ai répété ce que j'ai entendu depuis que je suis venu à l'Église. On est peut-être les seuls versets bibliques que nos familles, nos amis, nos connaissances et des inconnus liront jamais. Et j'en suis conscient. Il y a des gens qui ne lisent pas la Bible, même s'ils en ont une chez eux. Je me souviens que quand j'étais petit, ma mère avait une Bible qui devait faire à peu près cette épaisseur. Elle était dorée et tout. Elle était posée sur une étagère. Et il fallait faire attention si on touchait cette Bible. Elle était tellement sacrée qu'on ne pouvait pas la toucher. Mais, mes frères, on est peut-être les seules Bibles ou Écritures que quelqu'un lira dans toute sa vie. Maintenant, quelle partie des Écritures, quel verset biblique, en particulier sur la sainteté, ne voudrions-nous pas que tous ceux que nous rencontrons lisent? C'est une question rhétorique. Bien sûr, on voudrait qu'ils lisent tous les passages des Écritures qui parlent de la sainteté quand ils voient nos vies, n'est-ce pas? Lequel voudrais-tu laisser de côté? Je ne dirais pas que cette femme ne connaissait pas les Écritures. Je ne dis pas cela. Je ne peux pas le dire. Mais elle savait ce que signifiait être un saint de Dieu en observant Élisée, sinon elle n'aurait jamais fait cette déclaration. Il a développé une définition, potentiellement, de ce qu'est un saint homme de Dieu, ou du moins il l'a clarifié pour elle avec beaucoup de clarté, non seulement par ses paroles, mais aussi par sa façon d'agir, de marcher, de s'asseoir, ses manières, sa posture, sa façon de parler, son attitude face à la vie. Les gens nous observent tous les jours, vous et moi. Les jeunes, les gens vous observent. Les employeurs potentiels, les recruteurs. À l'école, les profs, les potes. Les membres potentiels, vos familles vous regardent de plus près, probablement plus que jamais, et vous analysent avec attention. Que se passe-t-il? Ils apprennent et sont émerveillés, espérons-le, par ce qu'ils voient. On doit tous être impressionnants. Et encore une fois, je dois insister là-dessus. Vivre comme un saint et passer du temps avec des gens en dehors de l'Église ne doivent pas s'exclure mutuellement. Vivre comme un saint n'est pas incompatible avec le fait d'être agréable à côtoyer. Être un saint attire les gens vers vous. Être saint attire les gens. Élisée en est la preuve. Maintenant, être saint permet aussi de trier les indésirables, la paille, si vous voulez. Qui sont les vrais amis? Qui est la vraie famille? Qui sont les vrais collègues? Qui sont les vrais collaborateurs? Ceux qui veulent que vous deveniez plus comme finiront par s'éloigner. Tu peux t'y attendre. La sainteté a cette tendance. Elle attire les gens qui sont intéressés et attirés par les caractéristiques dont on va parler, la sainteté, et en même temps, elle éloigne les gens dont tu n'as pas besoin dans ta vie. C'est le pouvoir de la sainteté. Et pourquoi? Pourquoi cela se passe comme cela? Parce que, comme je l'ai dit au début, on montre des qualités que personne d'autre sur cette planète ne peut montrer. Vous ne les trouverez pas dans les livres de développement personnel, ni dans les devises, ni dans les discours des conférenciers motivateurs. Personne n'enseigne la sainteté à l'université. Vous ne pouvez pas obtenir une licence, une maîtrise ou un doctorat en sainteté à l'université. Des caractéristiques saintes qui nous distinguent de tous les autres. Premier épître de Pierre, chapitre 1. Premier épître de Pierre, chapitre 1. Pourquoi devrions-nous nous soucier d'être remarqués de cette manière, mes frères? Pourquoi est-il important que nous voulions que les gens nous observent et soient remplis d'admiration? J'y ai fait allusion tout à l'heure. Pourquoi ne pouvons-nous pas trouver la notoriété d'une autre manière, comme la femme de Shunem? Elle n'a pas cherché la notoriété. Elle n'est pas devenue grande grâce à sa sainteté. Pourquoi Élisée s'efforçait-il d'atteindre le niveau requis pour devenir saint? Pourquoi cela serait-il important pour un être humain? Pourquoi est-ce si important d'être vu par les autres comme quelqu'un de pur physiquement, irréprochable moralement et consacré cérémoniellement? Pourquoi? Vous serez peut-être surpris de voir à quel point la sainteté était essentielle pour l'apôtre Pierre. Ce que nous allons lire n'est qu'un des 14 passages où il utilise ce mot en seulement 8 chapitres. C'est presque deux fois par chapitre en moyenne. Premier épître de Pierre, chapitre 1, verset 15. Pourquoi est-ce important? Mais, comme lui en référence à Dieu, qui vous a appelé à la sainteté, soyez saints dans toute votre conduite, votre comportement. Car il est écrit, soyez saints, car je suis saint. Et toute votre conduite est un seul mot en grec. C'est pas. On connaît ce mot. Certains d'entre nous le connaissent très bien. Il signifie tout, sans exception, dans tous les domaines. Il signifie complètement saint en tout temps et en tout lieu. Oh, voilà une norme. Et ce n'est pas seulement quand quelqu'un nous regarde. En fait, la sainteté est parfois davantage mise à l'épreuve lorsque nous sommes seuls. Maintenant, mes frères, je ne peux pas voir Dieu, vous non plus, mais je peux vous assurer que même lorsque Dieu est invisible pour nous, il est saint. Il est agio, et il l'est depuis toujours. Et c'est clair que l'apôtre Pierre a lu cela quelque part. Lévitique chapitre 11. Je suis sûr que Christ lui a appris cela. Au verset 44. Lévitique 11, 44. Car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous vous sanctifierez donc, vous vous séparerez, vous vous rendrez saints. Et vous serez saints. Pourquoi? Car je suis saint. Verset 45. Car je suis l'Éternel qui vous ai fait monter du pays d'Égypte, je vous ai fait sortir de ce monde, de la captivité, de l'esclavage. Pour quelle raison? Pour être votre Dieu. Vous serez donc saints, car je suis saint. En d'autres termes, l'apôtre Pierre a pris très au sérieux ce qu'il a dit. Il pensait ce qu'il disait, et il disait ce qu'il pensait. Dieu accorde de l'importance à la sainteté. Pourquoi? Parce qu'il est saint, mes frères. Élisée a prouvé ce que cette grande femme pensait peut-être déjà. Il y a un Dieu, et tout aussi important, le Dieu d'Élisée et le Saint. Combien de fois pensez-vous qu'Élisée a lu ce verset dans le Lévitique? Je suis sûr qu'il l'a lu plusieurs fois, voire plusieurs dizaines de fois. Dieu était une norme selon laquelle Élisée vivait. Élisée voulait vivre de manière à refléter Dieu, et Dieu est saint. Et cela englobe tout, mes frères. Non seulement Dieu est saint, mais regardons aussi le nom de Dieu qui est utilisé à plusieurs reprises. Je ne savais pas à quel point. Dieu a plein de noms. On le sait. On ne va pas parler des noms sacrés, mais je vais te dire, quand Dieu s'appelle lui-même ou se laisse appeler d'une certaine manière, c'est parce qu'il est parfaitement ce qu'on lui appelle. Job, chapitre 6. C'est la première fois qu'il est utilisé. Job 6. Job 6, verset 8. Oh, si seulement ma demande pouvait être exaucée. Job est en train de s'apitoyer un peu sur son sort. Oh, si seulement Dieu pouvait m'accorder ce que je désire ardemment. Que désire-t-il ardemment? Même si Dieu voulait bien me détruire, s'il voulait bien lâcher prise et me faire disparaître. Alors je serai réconforté. Oui, je m'endurcirai dans la douleur. C'est une formidable mise en place pour ce qu'il s'apprête à dire, car il se peut que Job voie une différence entre lui et Dieu, entre sa façon de vivre, sa façon de parler et le Dieu qu'il apprenait à connaître de ses propres yeux. Voici ce qu'il dit, qu'il ne m'épargne pas, car je n'ai pas caché les paroles du Saint. Le Saint. Job a appelé Dieu le Saint. Jérémie, Ézéchiel, Osée, Habacuc, tous ont parlé de Dieu comme cela. Tu peux vérifier. Le Saint d'Israël, de Jacob. Combien de fois tu penses que ce titre apparaît dans la Bible, mes frères? 47 fois. Je ne le savais pas. 47 fois, Dieu est appelé le Saint. Trop pour les citer toutes, évidemment. Ce titre, mes amis, est le mot Kadosh. C'est exactement le même mot hébreu qui a été utilisé pour Élisée et Aaron, et, bien sûr, Pierre, vous et moi. Mais alors que vous ou moi pouvons être appelés un saint homme de Dieu, ou une sainte femme de Dieu, ou un saint de Dieu, Dieu est le Saint. Il est la norme. Mais Dieu n'est pas le seul à avoir ce titre. Luc chapitre 4. Luc 4, verset 28. Et tous ceux qui étaient dans la synagogue, quand ils entendirent ces choses, furent remplis de colère, en colère contre ce que Christ venait de prononcer. Et ils se levèrent, le chassèrent hors de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la colline sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Maïsla, passant au milieu d'eux, s'en alla. Comme c'est approprié que Christ soit devenu invisible à une foule qui ne pouvait pas le voir tel qu'il était vraiment. Vous voulez que je sois invisible? Je vais vous rendre invisible. Vous ne pouvez pas me voir tel que je suis? Eh bien, laissez-moi simplement disparaître au milieu de vous et aller ailleurs, là où des gens, comme cette grande femme, me verront tel que je suis. C'est pourquoi le troupeau de Dieu à travers le monde va là où il le conduit. Il le suit partout où il est. La vraie Église de Dieu. Voyons si quelqu'un peut le reconnaître. Continuons à la verset 31. Il descendit à Capharnaüm, ville de Galilée, et il enseignait le jour du sabbat. Et ils étaient étonnés. Oh oh! Il devait y avoir une présence terrible ce jour-là. Et je le dis dans le meilleur sens possible. Ils étaient étonnés de sa doctrine, impressionnés par ce qu'il disait. Car sa parole était pleine de puissance. Et dans la synagogue, il y avait un homme qui avait un esprit impur, et qui s'écria d'une voix forte, « Laisse-nous tranquilles. Qu'avons-nous à faire avec toi? Jésus de Nazareth, es-tu venu pour nous détruire? Je sais qui tu es, le saint de Dieu. Voilà un titre, mes frères. Même les démons peuvent reconnaître la sainteté. Et pas seulement la sainteté, mais la sainteté parfaite, car ils l'ont appelé le saint de Dieu. Et mes frères, les démons ont reconnu qui était Christ en observant le trait de caractère le plus important qu'un homme ou une femme puisse montrer, la sainteté. Les Juifs ne pouvaient pas voir que Christ était le saint de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne cherchaient pas à vivre selon les normes que Dieu exige. Si je veux vivre selon les normes de Dieu, le saint, je veux être à l'affût de la sainteté. Et c'est ce que nous devons faire, mes frères. On doit s'imiter les uns les autres, se regarder les uns les autres, et comment on montre la sainteté, comme je l'ai défini plus tôt, est limitée, pour qu'on puisse aussi être reconnu. Christ est le seul autre à détenir ce titre. Pourquoi Pierre aurait-il été inspiré pour écrire à Jéhu 14 fois en seulement 8 chapitres, plusieurs années plus tard dans son ministère? Actes chapitre 3. Actes chapitre 3. Il a écrit la première épître de Pierre après les Actes, après l'Évangile, après son temps avec Christ. Actes chapitre 3, verset 1. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière, à la 9e heure, et certains de ceux qui entraient dans le temple. Verset 3. Qui ont vu Pierre et Jean sur le point d'entrer dans le temple et de demander l'aumône. Ils mendiaient de l'argent. Pierre, fixant les yeux sur lui avec Jean, dit « Regarde-nous ». Et il prêta attention à eux, s'attendant à recevoir quelque chose d'eux. Alors Pierre dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Il le prit par la main droite et le releva, et aussitôt ses pieds et ses chevilles reçurent de la force. Il était boiteux depuis qu'il était tout petit. Il bondit, se leva, marcha et entra avec eux dans le temple. Il marchait, sautait et louait Dieu. Et tout le monde le voyait marcher et louer Dieu, et il savait qu'il était assis à la belle porte, dit-on, du temple. Et ils étaient remplis d'émerveillement, de crainte, d'étonnement, de stupéfaction, et de ce qui lui était arrivé. Mes frères, les gens étaient stupéfaits. Ils étaient abasourdis. Ils étaient émerveillés par ce qui venait de se passer. Ils étaient impressionnés par ce qu'ils venaient de voir faire à cet homme, Pierre. Quelle démonstration de puissance cela a dû être pour eux! Il connaissait cet homme depuis sa naissance. L'apôtre Pierre tendit la main à l'homme qui était boiteux de naissance. Tout le monde le connaissait. Et que dit le verset 11? L'apôtre Pierre s'apprête à interroger les spectateurs et à détourner leur attention. Et tandis que l'homme boiteux qui avait été guéri tenait Pierre et Jean, tout le peuple courut vers eux dans le portique, appelé de Salomon, très étonné. Et quand Pierre a vu cela, il a répondu au peuple, « Homme d'Israël, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Ou pourquoi nous regardez-vous avec tant d'attention, comme si c'était par notre propre puissance ou... » C'est intéressant, je n'avais jamais remarqué cela avant. Notre sainteté, que nous avons fait marcher cet homme. Il ne s'agissait pas seulement de puissance ici. Pierre a utilisé le mot « sainteté » en rapport avec la guérison que cet homme venait de vivre. Réfléchissez aux implications pour nous, frères et sœurs, lorsque nous marchons dans la sainteté. Pourquoi a-t-il mentionné la sainteté? Pourquoi a-t-il souligné l'importance cruciale, à ce moment-là, d'être physiquement pur, moralement irréprochable et cérémoniellement consacré? Il aurait pu se contenter de démontrer la puissance de Dieu. Verset 13. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son fils Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, alors qu'il avait décidé de le relâcher. Mais vous avez renié. Qui ? Qui ont-ils renié ? Le saint et le juste. Vous avez tué le prince de la vie, etc. Qu'est-ce que Christ a dit à Philippe ? Celui qui m'a vu a vu le Père. Savez-vous ce que Pierre a vu ? La sainteté. Et Pierre lui a donné le nom de saint de Dieu, car le psaume 16 le désigne ainsi. Christ savait que vivre dans la sainteté ou comme un saint est la manière dont Dieu se révèle à un monde qui ne peut pas encore le voir, mes frères. Nous ne révélons pas seulement les Écritures. Nous révélons le saint et le saint de Dieu. Quelqu'un m'a récemment demandé, en partie à cause de quoi j'ai commencé à développer ce message. Il m'a dit, « Monsieur Hook, qu'est-ce qu'un saint ?» Voici ma réponse. Ceux qui sont choisis pour révéler le saint. C'est pourquoi il est si important de vivre en devenant des saints. Est-ce vraiment notre appel de Dieu ? Deuxième épître à Timothée, chapitre 1. Est-ce vraiment notre appel ? Est-ce ce que nous sommes appelés à faire ? Dans 2 Timothée 1, l'apôtre Paul parle au jeune Timothée. Verset 8. N'aie donc pas honte du témoignage de notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, mais participe aux souffrances de l'Évangile selon la puissance de Dieu, qui nous a sauvés et nous a appelés d'un saint appel. Il ne fait aucun doute que Dieu, le Saint, a établi l'appel de Timothée et le nôtre. Il poursuit en disant, non pas selon nos œuvres, mais selon son propre dessein et sa grâce, qui nous a été donné en Jésus-Christ avant le commencement du monde. Mais cela parle d'un saint appel. Ça ne dit pas vraiment que notre appel avait pour but d'être saint. C'est un saint appel. Ok, Éphésiens 1. On revient maintenant à notre point de départ. Éphésiens 1, verset 1, Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints. Aux agios, à Éphèse, et fidèle. Rayez-le et fidèle, cela n'y est pas, et fidèle en Jésus-Christ. Il ne parle pas de deux groupes. Il parle de l'église d'Éphèse. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous est béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, selon. Verset 4. Comme il nous a choisis en lui avant la fondation du monde. Non seulement Dieu a établi un appel avant la fondation du monde, mais il a choisi des individus spécifiques avant que le monde ne commence. Mais dans quel but ? On sait que c'était un appel saint. On vient de le lire dans la deuxième épître à Timothée. Mais en quoi consistait précisément cet appel à la sainteté ? Était-ce ? Continuons la lecture, afin que nous soyons saints et irréprochables devant lui dans l'amour, nous ayant prédestinés à être adoptés comme fils par Jésus-Christ lui-même, selon le bon plaisir de sa volonté. Pierre nous commande d'être saints dans toute notre conduite parce que Dieu est saint. Et ce n'était pas une réflexion après coup. Notre appel, c'est d'être saint. Éphésiens 5. Revenons là où on en était quand on a commencé. Devenez saint, c'est dans le verset 3. Maintenant, passons au verset 21. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Il commence ensuite à s'adresser aux maris et aux femmes. Femmes. Soyez soumises à vos maris, demandez au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, et il est le sauveur du corps. C'est pourquoi, comme l'Église est soumise à Christ, que les femmes le soient à leur mari en tout. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier et de la purifier par le lavage d'eau par la parole. Revenons à ce point. Afin qu'il, Christ, puisse se présenter une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Le but du Christ pour l'Église est le même que celui que Dieu avait pour lui, à savoir que nous soyons tous saints et irréprochables. Christ savait que vivre dans la sainteté, ou comme un saint, est la manière dont Dieu invisible, se révèle au monde. Encore une fois, la réponse à la question « qu'est-ce qu'un saint ?» Ceux qui sont appelés et choisis pour être saints afin que le monde connaisse le saint. Alors, comment on devient saint? Ce n'est pas le sujet principal de mon message, mais je voudrais juste passer en revue ce que je considère comme quatre piliers essentiels. Comment on devient saint? Comment on reste saint? Eh bien, répondons à ces questions, car si on veut vivre comme des saints, on doit d'abord être rendu saint. Pour être rendu saint, Dieu doit nous appeler et nous choisir. Revenons au chapitre 16 du livre des Nombres. Le chapitre 16, un récit très connu, celui de Corée, Dathan et Abiram, qui a été cité plus tôt dans les psaumes. Verset 1, Corée, fils d'Ilzar, fils de Kath, fils de Lévi, Dathan et Abiram, fils d'Eliab, Éon, fils de Pélet, fils de Ruben, prirent des hommes et se révoltèrent contre Moïse avec 250 princes de l'assemblée, parmi les enfants d'Israël. Je dirais qu'ils étaient assez populaires. Très importants, célèbres dans la congrégation, il est dit qu'ils étaient des hommes de renom, pas seulement célèbres, mais de renom. Et ils se rassemblèrent contre Moïse et contre Aaron, et dirent, « Vous prenez trop sur vous. Je veux que vous sachiez quelque chose, Moïse et Aaron, toute la congrégation est sainte. On est tous des saints ici. On dirait qu'une attitude de supériorité morale se développe. Chacun d'entre eux, insiste-t-il, et le Seigneur est parmi eux, pas seulement vous et Aaron. Pourquoi alors vous élevez-vous au-dessus de la congrégation du Seigneur? Et quand Moïse? Pourquoi êtes-vous les meilleurs? Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée du Seigneur? Et quand Moïse entendit cela? C'est une bonne indication de la raison pour laquelle il était. Il répondit à leurs questions, mais il ne répondit pas, si vous voulez, avec des mots. Il est dit, il tomba sur sa face. Laissez-moi vous répondre. Je vais m'agenouiller très vite, car les choses vont vraiment mal tourner. Je connais le Dieu saint dont vous parlez. Et il parla à Corée et à toute sa compagnie, en disant, demain, le Seigneur montrera à tous qui sont les siens et qui sont saints, et il les fera approcher de lui. Même ceux qu'il a choisis, il les fera approcher de lui. Faites ceci, prenez des encensoirs, Corée et toute sa compagnie, mettez-y du feu et de l'encens devant le Seigneur demain. Et l'homme que le Seigneur choisira sera saint. Passons au verset 32. Et on sait ce qui s'est passé. La terre ouvrit sa bouche et engloutit Corée et ses maisons, tous les hommes de l'alliance de Corée. Je vais me risquer à dire que Dieu a déclaré qu'ils n'étaient pas saints et qu'ils étaient bien loin de le représenter, lui, le saint, sur terre. Et je ne l'accepterai pas. Frères et sœurs, on connaît le plan ultime de Dieu. La sainteté et la justice rempliront la terre. Certains peuvent sembler saints. On peut même prétendre être saint. Seul Dieu le révélera le moment venu. Hébreux 13, verset 8 dit, « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » Frères et sœurs, Dieu doit choisir ses saints, et on a une vocation privilégiée. Dieu nous a donné ce titre. Maintenant, qu'allons-nous en faire? Et comment l'avons-nous obtenu? C'est la première chose. Dieu doit nous choisir. Hébreux 13. La deuxième façon. La deuxième façon. L'une n'est pas moins importante que l'autre. Hébreux 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Verset 9. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce, et non par des aliments, qui n'ont été d'aucune utilité à ceux qui s'en sont occupés. Nous avons un autel, c'est pourquoi ceux qui servent le tabernacle n'ont pas le droit d'en manger. Car les corps des bêtes dont le sang est apporté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés hors du camp ou en dehors du camp. Verset 12. C'est pourquoi Jésus aussi a été tué hors du camp. Afin de sanctifier le peuple de Dieu, par son propre sang. Tu te souviens de la définition de Agio? Rendre physiquement pur, moralement irréprochable et cérémoniellement consacré. Jésus a sanctifié ceux que Dieu appelle et choisit par son propre sang. Sans le sang du Christ, personne ne peut être agiézo. Tu ne peux pas être sanctifié sans le sang du Christ et sans que Dieu t'ait choisi depuis la fondation du monde. Ce mot vient de agiézo, sanctifier le peuple. Il signifie rendre saint, consacré cérémoniellement. Personne ne pouvait se tenir devant Dieu ou être en bonne relation avec Dieu sans être consacré cérémoniellement, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament. Et il a fallu le sang du Christ pour mettre les gens dans une position où ils pouvaient être saints. Premier épître de Pierre, chapitre 1. Donc, Dieu doit te choisir si tu veux être saint. Tu dois être choisi par lui pour révéler qui il est à ceux qui nous observent. Le sang du Christ doit sanctifier tous ceux que Dieu choisit et sélectionne. Deuxième épître, premier épître de Pierre, chapitre 1, verset 1 Pierre, apôtre de Jésus-Christ, aux étrangers dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, en vue de l'obéissance, à la lumière de cette parole. Et de l'aspersion du sang de Jésus-Christ, le voilà encore, Jésus-Christ, le sang, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Pierre montre encore une fois que la sainteté vient de l'aspersion du sang du Christ. Mais l'apôtre Pierre ajoute que c'est le Saint-Esprit qui nous sanctifie, et Dieu nous le donne quand on nous impose les mains après avoir accepté le sacrifice du Christ et avoir été baptisé. Dieu doit vous choisir, le sang du Christ doit nous sanctifier, et le Saint-Esprit que nous recevons au baptême, après avoir accepté le sacrifice du Christ pour nos péchés, nous recevons le Saint-Esprit, qui continue à nous aider à devenir saints, car être saint est un processus, mes frères, et il faut le Saint-Esprit pour nous sanctifier. Romains chapitre 15. Comme je l'ai dit, je viens de mentionner les trois. Il faut que Dieu vous choisisse, le sang du Christ et le Saint-Esprit pour que nous soyons saints et que nous continuions et restions saints. Romains, chapitre 15, verset 14. Et moi-même, je suis persuadé de vous, mes frères, que vous êtes aussi plein de bonté, rempli de toute connaissance, capable aussi de vous exhorter les uns les autres. Mûr à tous égards, plein de bonté, rempli de toute connaissance. Néanmoins, je vous ai écrit avec plus d'audace pour vous rappeler, à cause de la grâce qui m'a été donnée par Dieu, que je suis le ministre de Jésus-Christ pour les païens, ministrant l'évangile de Dieu, afin que l'offrande des païens soit agréable, sanctifiée par le Saint-Esprit. Voilà, le Saint-Esprit. Et pas seulement les Israélites, pas seulement les Juifs. Partout dans le monde, mes frères, où que vous soyez, Israélites ou païens ou les deux, si vous recevez le Saint-Esprit après que Dieu vous a choisi et que le sang du Christ vous a sanctifié, vous pouvez révéler le Saint de Dieu où que vous soyez. En Afrique, en Australie, en Europe, où que vous soyez, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, n'importe où dans le monde, vous avez exactement la même vocation grâce à l'Esprit de Dieu dans les deux précédents. Deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 2. Je veux insister sur ce point. Deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 2. Parlant de l'homme du péché, au verset 3, et avertissant les frères de rester fermes jusqu'à la fin. Rappelez-vous ce que Pierre a dit, par la sanctification de l'esprit, à l'obéissance. Frères et sœurs, soyez très attentifs à cela. Je crois que Dieu a choisi chacun d'entre nous, vous, par l'intermédiaire de vos parents, futurs membres. Méditez là-dessus. Je sais que le sang du Christ a sanctifié chacun d'entre nous qui avons été baptisés. Je sais que tous ceux qui ont reçu l'imposition des mains ont accès au Saint-Esprit et que celui-ci habite en eux, et vous, les jeunes, on va voir que le Saint-Esprit agit en vous. Verset 13. Mais nous sommes tenus de rendre grâce à Dieu pour vous, frères, et bien-aimés du Seigneur, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement, voilà encore une fois la première étape pour être saint. Vous a choisi pour le salut. Par quoi? Par la sanctification de l'esprit et la croyance en la vérité. Oh, l'apôtre Paul a ajouté quelque chose d'autre ici. Pas seulement la sanctification par le Saint-Esprit, mais aussi par la croyance en la vérité, et vous vous souvenez de ce que Pierre a dit? À l'obéissance. À laquelle il vous a appelé par notre évangile, afin que vous obteniez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce sont là les trois piliers nécessaires pour porter le titre de saint. Mais je viens d'évoquer le quatrième. Jean 17. Dieu doit choisir et appeler, le sang du Christ doit sanctifier de manière cérémonielle, et Dieu dans l'esprit du Christ doit nous purifier jusqu'à l'obéissance. Le faux christianisme est loin de comprendre cela et est certainement loin de ce quatrième pilier qu'est la sainteté. Quand la Bible nous montre clairement, la Bible, vous pouvez la lire, dit clairement que ce n'est qu'un début, ce que j'ai décrit. Et je vais vous dire, beaucoup de ceux qui nous ont quittés récemment ou au cours des 2000 dernières années voulaient le titre de saint, mais devenir saint était un peu trop difficile pour eux. C'est là que les choses se sont compliquées. Ils voulaient le titre de saint, mais ils ne voulaient pas continuer et persévérer dans ce qu'il fallait faire ou ce qu'il fallait endurer pour vivre comme un saint jusqu'à la fin. Et voici ce qui nous distingue vraiment, ce qui nous rend visiblement saint, ce qui nous rend visiblement impressionnant aux yeux de ceux qui nous lisent chaque jour. Verset 1, Jean 17, verset 1. Jésus prononça ces paroles et leva les yeux vers le ciel. Alors qu'il priait. Quelle connaissance nous avons maintenant, frères, qu'il a levé les yeux vers le ciel parce qu'il savait que le Père était très proche. Verset 6. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Verset 14. Je leur ai donné ta parole, et le monde les haït parce qu'ils ne sont pas du monde, tout comme je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal de ce monde, dit-il. Verset 16. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Verset 17. Sanctifie, rends saint, agiazo, qui donne agio. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est vérité. Mes frères, Romains 12 nous dit que la loi de Dieu est agio, sainte. Et le commandement, dit-il, est saint, agio, juste et bon. Mes frères, le même mot grec décrit Dieu, décrit Christ, nous décrit l'Esprit, décrit sa parole. Pas étonnant que Christ ait pu dire, afin que nous soyons tous un. Un dans quoi? Dans la sainteté. Mais ceux qui se sont un jour appelés saints par ce qu'ils ont accompli, disons, les trois premiers, Dieu les a appelés, Ils ont accepté le sacrifice du Christ et la sanctification de leur vie par son sang. On leur a imposé les mains et ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais ce quatrième pilier, ils ne voulaient pas obéir à la vérité, la parole qui nous sanctifie. La parole de Dieu, nous le savons, nous lave, nous purifie, nous aide à maintenir la sainteté que nous avons prise sur nous ou reçue lorsque nous avons été baptisés. 1 Épître aux Corinthiens, chapitre 7. J'ai dit que je m'adresserai aux jeunes. Mes frères, c'est à cette aune que nous devons mesurer notre vie aujourd'hui, car c'est à cette norme que Dieu nous mesurera et nous mesure. Si nous nous mesurons à cette norme et que nous alignons notre vie de manière à vivre comme des saints, nous n'avons rien à craindre. On a accompli la mission ultime, qui est de refléter le Saint et le Saint de Dieu dans notre façon de penser, de parler et d'agir. Et les jeunes, cela vous inclut. Rappelez-vous que j'ai dit que ce même mot en grec décrit Dieu, Christ, les Écritures, nous, les parents, sa loi. 1 Épître aux Corinthiens, chapitre 7, verset 14. Réfléchissez à cela, parents, à l'impact que vous avez. Car le mari non-croyant est sanctifié, ce même mot, rendu saint, traduit ailleurs par saint. Par la femme, et la femme non-croyante est sanctifiée, même mot, rendu sainte. Par le mari, ailleurs, vos enfants impurs, mais maintenant ils sont saints. C'est exactement le même mot que saint. Vous n'êtes peut-être pas appelé saint, mais votre vocation est comme si vous l'étiez. Vous avez été sanctifié par Dieu à travers vos parents. Vous avez donc une chose à faire, et nous l'avons entendu récemment. Prenez le temps dont nous disposons très au sérieux, futurs membres. Si vous envisagez le baptême, c'est la raison pour laquelle vous avez été appelé à révéler le Saint, Dieu. Et vous ne pouvez devenir saint que par ce que je viens d'expliquer. Tout le monde, jeune, vieux, et tous les autres. Si tu doutes de quelque chose de précis dans ta vie qui ne répond pas à cette norme, prie. Demande à Dieu de te révéler la réponse. Il te répondra dans sa parole, à travers l'étude de la Bible. La sainteté est tellement importante. Si un domaine de ta vie n'est pas en accord avec le fait de devenir saint ou avec ce qui convient à un saint, médite sur les Écritures qui parlent de la sainteté et, bien sûr, exerce le Saint-Esprit de Dieu qui aide notre esprit à devenir saint dans notre façon de penser. Si tu ne réponds pas à cette norme, fais quelque chose pour y remédier. Change. Désire être saint, être à la hauteur de ce titre. Encore une fois, il s'agit moins du titre que de la façon dont on se comporte. Va à la bibliothèque de l'Église et fais des recherches. Va à la bibliothèque de sermons et écoute les messages sur le domaine qui te préoccupe. Être saint, c'est super important. Si quelqu'un avait pu penser qu'Élisée faisait semblant, qu'il prétendait être un saint de Dieu ou un homme saint de Dieu, cela aurait été cette femme. Donc, mon conseil, c'est de prendre ce que tu as appris, de prendre ce que tu apprends de tous les messages. Il ne s'agit pas de savoir comment agir dans tous les domaines de ta vie pour qu'elle devienne sainte. Je te laisse le soin de le découvrir. C'est à cela que servent tous ces messages. C'est plutôt un message général pour t'encourager à prendre ce que tu apprends et à le mettre en pratique. En tant que saint, on doit toujours être sincère et cohérent, et c'est ce qui a poussé cette femme extraordinaire à faire revenir Élisée encore et encore. On doit être sincère et cohérent dans notre sainteté, peu importe où on est ou avec qui on est. On peut être seul dans notre chambre la nuit, on peut se promener dans le parc, faire les courses, rendre visite à notre famille, passer du temps avec nos potes de fac ou de lycée, ou être au boulot. On doit vivre de manière authentique et cohérente en tant que saint en devenir, Ce qui ne veut pas dire qu'on doit être bizarre. Il n'y a rien dans les Écritures qui vous disent que vous devez être bizarre ou étrange. Tu sais où se trouvent les limites. Reste de ce côté-là. Ça attirera les bonnes personnes vers toi. Ça éloignera les mauvaises personnes. Christ a mangé avec des publicains et des collecteurs d'impôts, et il a été accusé de tout, d'être un buveur de vin parce qu'il buvait du vin, mais il n'a jamais renoncé à sa sainteté, ni cédé, ni abaissé ses standards. La sainteté est partout dans la Bible, mes frères. La manière de vivre en tant que saint est partout dans la Bible. Apocalypse 4. Dernier verset ici. On va rester dans l'Apocalypse jusqu'à la fin. Apocalypse 4. Comment on a appris de ce livre, j'oserais dire comme jamais auparavant. On apprend des choses dans l'Apocalypse qui sont tout simplement ahurissantes, impressionnantes. Je dirais même des choses terribles, qui inspirent la crainte. Apocalypse 4 verset 1 dit ceci, « Après cela, je regardai, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette qui me parlait, dit, « Monte ici, et je te montrerai les choses qui doivent arriver après cette période. » Aussitôt, je fus ravi en esprit. Et voici, un trône était dressé dans le ciel, et quelqu'un était assis sur ce trône. Verset 8. Les quatre êtres vivants avaient chacun six ailes, et ils étaient couverts d'yeux tout autour, et ils ne cessaient, ni jour ni nuit, de dire, « Quoi ? Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est, et qui vient. » Trois fois, les quatre êtres vivants ont appelé Saint le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Les 24 anciens se prosternèrent devant celui qui était assis sur le trône et adorèrent celui qui vit pour toujours et à jamais, et ils jetèrent leur couronne devant le trône, en disant, « Tu es digne, ô Seigneur, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est pour ton plaisir qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Les quatre êtres vivants connaissent cette norme. Apocalypse 15, verset 1. Et je vis dans le ciel un autre signe, grand et merveilleux, sept anges ayant les sept derniers fléaux, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Et je vis comme une mer creusée de ver mêlé de feu, et ceux qui avaient remporté la victoire sur la bête, et sur son image, et sur le nombre de son nom, debout sur la mer de ver, ayant les harpes de Dieu. Et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, en disant, « Grandes et merveilleuses sont tes œuvres, Seigneur Dieu Tout-Puissant, juste et véritable sont tes voies, toi, roi des saints, toi, roi du peuple saint. » Apocalypse 20. Dieu est saint. Et verset 5. 20 verset 5. Mais les autres morts ne revinrent pas à la vie avant que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saint celui qui participe à la première résurrection. Vous savez, j'avais l'habitude de lire cela comme une sorte de commentaire sur le fait d'arriver à la résurrection principale. En d'autres termes, si vous y arrivez, vous êtes béni. Je ne l'ai pas lu tout à fait de la même manière quand j'ai vu saint là. Je me suis dit, non, attendez, c'est une déclaration de fait, c'est ce qui les a amenés à la résurrection principale. La sainteté. C'est sûr, on est tous bénis, peu importe où on en est dans le plan de Dieu pour amener les gens dans la famille divine. Mais la sainteté, c'est une condition pour en faire partie. Pour en faire partie. Et Apocalypse 22, le dernier verset. Mes frères, n'oubliez jamais que la vraie sainteté va remplir la plupart des gens de crainte respectueuse. Ce n'est pas différent avec Christ, ce n'est pas différent avec l'ancien Israël, ce n'est pas différent avec vous et moi. Elle attirera les bonnes personnes vers nous, et surtout, elle nous rapprochera de Dieu. La sainteté ne nous attirera jamais vers le monde. Réfléchissez-y. Réfléchissez-y. Nous l'avons appris de la rencontre entre Élisée et la grande femme. Le monde serait attiré par la sainteté, mais la sainteté ne nous attirera pas vers le monde. Et voici comment se termine le chapitre 22 de l'Apocalypse. On sait où cela s'applique prophétiquement, mais qu'en est-il de nous quand on lit cela? Verset 11. Que celui qui est injuste reste injuste, que celui qui est souillé reste souillé, que celui qui est juste reste juste, et mes frères. Et que celui qui est saint reste saint.